études sur Cantique, Olivier et l'autre Laurent.
Je te connais, oh Jésus.
Bien-aimés, recevez mes salutations fraternelles en Christ Jésus. L'émission de cet après-midi viendra mettre fin à la série d'émissions consacrées au chant enlevé. Et pour conclure cette série, nous avons choisi de faire l'étude de Mao Anna, que je vous laisse à présent écouter. Le chant va venir dans quelques instants, ne vous en faites pas, et ça vient tout de suite. Mao Anna, que nous écoutons dès à présent.
Put your hand on your chest and declare it over your life.
Unless
you are. Look at your neighbor. Chikama got your voice.
Chikamega. Choko.
Nele yes to bumbo.
The God we serve.
Can I hear you, church, wherever you are?
So
Mahou Anna, un cœur très chanté dans les années 90, dans le milieu chrétien bien sûr, et merveilleusement interprété par le groupe Bethel Revival Choir. Vous l'aurez remarqué que le chant Mahou Anna est combiné avec une autre chanson en anglais qui va dans le sens du chant initial. Mahou Anna, bien-aimé, nous allons dès à présent découvrir les paroles de la chanson avec l'autre Laurent. L'autre Laurent, bonjour.
Oui, bonjour Olivier.
On va y aller avec les paroles de la chanson que nous allons cet après-midi étudier ensemble, la dernière chanson en Évi. Mahou Anna.
Bien, là, je commence avec l'original en Évi. Mahou Anna nyalaounou alesi wanyo nawe. Chikamegacho pou ne eleye suboko mawana nyalawunu alesi wanyo nawe. Ensuite vient la portion en anglais. He is the changer of destiny. He is making a way for you. That's the God which we serve. He can never fail. He is working out for you. That's the God we serve. He can never fail. He can change it. He will change it. He has changed it. Alors, en français, nous avons ceci. Dieu veillera sur sa parole pour l'accomplir en ta faveur. Ne crains point. Si tu demeures en Christ, Dieu veillera sur sa parole pour l'accomplir en ta faveur. Alors, en français, nous avons ceci. Il est celui-là qui change ta destinée, il ferait un chemin pour toi, voilà le Dieu que nous servons. Il n'échoue jamais, il œuvre en ta faveur, voilà le Dieu que nous servons, il ne change jamais. Il peut changer la situation, il la changera, il l'a changé.
Put a hand on your chest and declare this upon your life.
Unless you
are. Unless you are. Look at your neighbor. Chikama got your phone.
Chikama got your phone.
Tell me yes to the
phone.
We have an answer.
Yes, you are.
A-t-on des informations sur l'auteur du cantique, le véritable auteur du cantique? Est-ce qu'on a des informations sur lui?
Non, non, c'est une chanson, un chant, un cantique populaire,
oui,
très répandu dans les milieux chrétiens, comme
tu l'avais dit. Oui, oui.
Et
oui,
très souvent, ces genres de cantiques sont extraits, soit c'est un refrain sur lequel on s'apesantit,
oui,
uniquement.
Oui, 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 oui,
mais jusque-là, pas d'informations réelles.
Pas d'informations réelles. Très bien. Nous allons dès à présent aborder la phase commentaire de cette émission et on va débuter bien sûr avec la première partie du chant que nous avons enlevé et nous allons lire la version française traduite du chant d'ailleurs. Dieu veillera sur sa parole pour l'accomplir en ta faveur. Ne crains point, si tu demeures en Christ, Dieu veillera sur sa parole pour l'accomplir en ta faveur. Voilà, l'autre Laurence, c'est le chant. Donc, je retiens de cette partie-là, quelqu'un qui vit un problème, si je me trompe, tu vas me démentir et me mettre sur les rails. Ou quelqu'un qui vit un problème ou traverse une situation vraiment difficile, et un ami vient le rassurer en disant que Dieu veillera sur sa parole, où Dieu permettra qu'ils connaissent une fin heureuse. Est-ce que c'est bien ça?
Oui, oui, c'est vrai.
Oui, ok, d'accord.
Maintenant, quand on prend le texte de la chanson, on se rendra compte que c'est en adéquation avec la parole de Dieu. Pourquoi? D'abord, le condensé de cette partie de la chanson nous donne ceci. En tant que croyant, j'ai l'assurance, la conviction que je suis pris en charge par le Seigneur et ce en vertu du sang versé au calvaire. C'est-à-dire que si je perds de vue le fait que Jésus me prend en charge dès l'instant où je me suis donné à lui jusqu'à la fin de mon parcours ici-bas, alors quand je traverse les situations difficiles, je serai tenté de faire ce que les enfants d'Israël avaient fait en leur temps. On en parlera un peu plus loin et pour le moment. Donc ici, c'est l'assurance qu'en vertu du sang versé, je suis pris en charge et c'est sur cette base que celui dont tu parles est parti réconforter la personne qui traverse les moments difficiles. Ce Seigneur-là est fidèle à son alliance, à sa parole, à sa promesse. C'est un Dieu d'amour, un Dieu qui use de miséricorde et de grâce envers nous. Alors, je voudrais dire ceci. Quand nous prenons l'histoire des enfants d'Israël, des esclaves qui avaient été affranchis, libérés, et qui ont vu de leurs propres yeux, collectivement en tant que peuple, la main puissante de Dieu agir en leur faveur, jusqu'à ce qu'ils ne quittent l'Égypte et se retrouvent de l'autre côté de la mer Rouge. Normalement, de telles personnes, pour le restant de leur existence, devaient être un peuple connu pour sa gratitude, sa reconnaissance envers son Seigneur, n'est-ce pas?
Oui.
Bien. Alors, malgré tout ce qui s'est passé, s'il faut analyser, vous allez remarquer que le peuple d'Israël a bénéficié de la prise en charge de Dieu de l'Égypte jusqu'à ce que, bon, certains se sont perdus dans le désert, mais Dieu a été fidèle à son alliance. Alors, si, sous l'ancienne alliance, le peuple, en vertu du sang d'un animal, a bénéficié de la prise en charge de Dieu, hein, combien à plus forte raison sous la nouvelle alliance? Alors, je voudrais dire ceci. Dans Ésaïe 46, il est dit ceci dans le verset 3. Écoutez-moi, maison de Jacob, et vous tous, reste de la maison d'Israël, vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine. Je vous ai pris à charge, d'accord? Dès votre origine, que j'ai porté dès votre naissance. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Ça, c'est Dieu qui dit ces choses. Pourquoi? Tu as vu dans le texte là, on parle de naissance, on parle de vieillesse. Si je transpose ça et que je le calque sur la nouvelle alliance, jusqu'au moment de ma nouvelle naissance, Jésus me prend en charge. Et jusqu'à ce que je finisse, que tu finisses, que nous finissons notre course ici-bas, ou que la trompette ne sonne, aucun parmi les enfants de Dieu ne peut un jour dire à Jésus, tu vois, je t'ai confié ma vie, mais à un moment donné, tu n'as pas été à la hauteur de la tâche. Non, ça c'est Jéhovah qui dit ça au peuple d'Israël. Pourquoi Dieu a dit ça? Parce que d'un côté, Dieu est fidèle, et de l'autre, le peuple est infidèle. Et cela nous arrive à nous aussi, surtout lorsque nous traversons ces moments difficiles. Tout à l'heure, je vais dire ce qu'il faut faire quand on est dans la détresse, ce qu'il ne faut pas faire quand on est dans la détresse. Alors, dans le verset 9, il dit, « Souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les temps anciens, dans les temps passés. Car je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu, et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. » Voilà le Dieu avec qui nous traitons, qui prend sur lui de s'occuper de nous de bout en bout. Alors, maintenant, dans la chanson, la condition de prise en charge par Jésus est énoncée, et cela est conforme aux Écritures. Il dit, si tu demeures en Christ, n'est-ce pas? Dans Jean chapitre 15, là le Seigneur va dire, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Ceux qui enseignent la sécurité éternelle ne semblent pas avoir lu ces versets-là. La condition est, tu demeures en Christ et Christ demeure en toi. Tu l'abandonnes, il ne pourra rien faire pour toi.
Il ne peut pas demeurer en nous.
D'accord?
Oui.
Tu es dans la barque, tu ne vas pas sombrer dans l'océan, dans le fleuve. Tu es dans le bateau, aussi longtemps que le bateau est là sur l'eau, tu ne vas pas sombrer dans l'océan. Mais si tu, je suis fatigué d'être dans le bateau, je veux m'aventurer sur l'océan, et alors tu vas te noyer. Donc, demeurez en moi, je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit. S'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Donc la condition c'est demeurer en moi. Alors quand je demeure en Jésus, et que maintenant je traverse les situations difficiles, je fais quoi? D'accord? C'est la question qu'il faut se poser. Je demeure en lui et il demeure en moi. Maintenant je traverse les situations difficiles. Je passe par un moment de détresse. Là sous l'ancienne alliance, on te dira, invoque Dieu. Sous la nouvelle alliance, on te dira, parle à Dieu. Demande-lui. Dans Jean, toujours, chapitre 15, verset 7, il dit, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Tu vois, quand on enseigne aux gens aujourd'hui, c'est pourquoi il faut pas pousser les gens dans l'étude d'émotions là. La parole, c'est le fondement, c'est la base sur laquelle nous nous entretenons avec Dieu. Il dit, hein, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, ça veut dire quoi? Lorsque je suis converti et que devenu enfant de Dieu, je lis un passage des Écritures qui contredit ma pensée que j'avais avant ma nouvelle naissance. Et que j'accepte cette parole en moi par obéissance et dit, demandez ce que vous voudrez. Parce qu'en ce moment, ce que je vais demander sera conforme à sa parole. Mais lorsque j'achoppe sur un verset, un verset te dit de pardonner et je refuse de pardonner, je peux prier, jeûner, faire tout ce que je veux, Dieu ne m'exaucera jamais. Si vous demeurez
en moi et que mes paroles demeurent en vous. Si tu permets à cette parole de demeurer en toi, là tu peux évoluer avec lui. Elle dit, cela vous sera accordé. Et c'est pour cela que le même apôtre maintenant va dire, 1 Jean chapitre 5, verset 14, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté. Tu vois un peu, Dieu n'exauce pas toutes les prières. Il y a des prières qui sont exaucées au deuxième ciel, là où se trouve la cohorte de démons, d'anges déchus. Si je formule une demande qui contredit la parole de Dieu, et que malgré ça je suis exaucé, ne rêve pas que Dieu t'a exaucé. Non, c'est un Dieu d'alliance, il ne va jamais violer sa parole, sa promesse, son alliance, et sa dignité, et son honneur pour faire plaisir à quelqu'un. Toutes les prières ne sont pas exaucées par Dieu. Non, c'est vrai que des gens vous diront, oui, mais même si le féticheur veut prier, il invoque Dieu. Oui, quand elle veut prier. Oui, mais oui, il y a des dieux. C'est pour cela que tout à l'heure dans Isaïe dit, je suis Dieu. En dehors de moi, il n'y en a pas. Maintenant, il y a des aides qui se sont fait passer pour Dieu. Voilà pourquoi dans les communautés primitives et tout ça là, il y a des manifestations. Allez, essayez de voir un peu l'image qu'on donne de ces dieux-là. Vous allez voir, c'est des êtres qui ont fait peur, tout ça. Alors que le Dieu véritable dit, je suis esprit, vous ne m'avez pas vu, vous ne pouvez pas me représenter. Donc ici, il dit, et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit la chose que nous demandons, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Donc, la réponse de Dieu te sera donnée, ce sera quand Dieu choisira peut-être d'agir directement en t'exaucant, ou d'intervenir par d'autres moyens pour amener la réponse. Donc, là, qu'est-ce que je comprends dans tout ce que je viens de dire? Je suis à l'aise en tant qu'enfant de Dieu quand je sais que, un, je suis pris en charge par Jésus-Christ. Deux, lorsque je demeure en lui et que j'accepte sa parole dans ma vie, ce que je demande qui est conforme à sa volonté, et sa volonté est révélée dans sa parole, ce que je demande qui est conforme à sa volonté, à sa parole révélée, cette chose m'est accordée. Alors qu'est-ce qu'il faut? J'attends tranquillement dans la foi. Et je reçois l'exaucement à cette requête ou ce que j'avais demandé à Dieu.
Put your hand on your chest and declare this over your life. Look at your neighbor. Chikamba got your phone.
Chikamba got your phone.
Nele yet to bumbo.
Nele.
We have an assurance.
Yes to bumbo.
Amun ananya na wunu now.
Amu ananya
na wunu.
Dans ce studio, l'autre Laurent, et il faut le reconnaître que généralement ces situations sont insupportables et difficiles à vivre. au point que des fois nous désespérions du secours de Dieu. Ne fût-ce pas le cas de Job, qui à un moment donné avait commencé par perdre espoir, et ce qui d'ailleurs l'avait conduit à commencer par s'apitoyer, ou même à s'apitoyer sur son sort. Que faut-il dire? On désespère, c'est vrai, on sait que Dieu va agir, mais par moments, on perd les pédales. Que
c'est
faut-il
vrai.
Faire?
C'est vrai que en suivant l'émission et en suivant le développement que nous faisons de la chanson, vous aurez l'impression que ceux qui vous parlent sont immunisés, sont exonérés de détresse, de situations difficiles. Non, si nous vous appelons en aparté et on vous dit
ce qu'on vit,
est-ce que vous serez étonné
qu'on vient chaque dimanche, se mettre sur cette antenne,
pour vous
cette
parler,
émission,
pour vous exhorter, et pour vous dire, écoutez, il faut qu'on continue à avancer. Voilà.
En parenthèse, au temps de Covid, on a vécu des situations.
Ah, mais bien sûr.
C'est pas
mais vous n'avez rien su.
On est là.
Notre appel, on était là et on vous a entretenu. Donc, ce que nous voulons dire, c'est que, Olivier, tu as parlé de Job.
De Job, oui.
C'est vrai que c'est quand l'histoire de Job a été rédigée, écrite, que l'on peut maintenant dire des choses, des commentaires. Au début, personne ne sait ce qui lui arrivait.
Et de façon générale, quand les pasteurs parlent de lui, du cas de Job, c'est comme si on les mettait dans les mêmes conditions.
Ils ne vont pas te lire. Quand tu lis l'histoire de Job, le monsieur est méticuleux dans son adoration.
Ah bon.
Quand tu observes sa vie, il s'occupe d'abord de sa vie, sa foi avec Dieu, et il veille aussi sur la foi de ses enfants, et il intercède en leur faveur. Tu vois, et Dieu, dans sa miséricorde, le protégeait. Maintenant, quand tu lis le texte de Job, tu vas voir que par quatre fois, il y a toujours un rescapé de l'attaque du diable pour venir lui dire, moi seul, je me suis échappé pour t'apporter la nouvelle. Ça, c'est une attaque stratégique du diable. Ça a été fait de façon stratégique dans le but de l'affecter. D'accord ? Il était en mesure de le déposséder de tout appui. Vous prenez Job comme un homme d'affaires, vous voyez un peu, on vient t'annoncer voilà, que tel produit vient de... Voilà. Donc, c'est juste, quand tu analyses, tu vas voir que chaque fois que quelqu'un vient lui dire, moi seul, je me suis échappé. Et pas fini maintenant, le clou perd ses enfants. Et là, de façon naturelle, sa femme, mue par l'émotion, parce que c'est elle qui a porté ses enfants là pendant 9 mois, n'est-ce pas? Mais elle n'a pas raison d'inciter son mari à maudire Dieu comme cela. Le jugement va venir sur lui et là il va mourir.
Il dit maudit Dieu, meurt.
Et il meurt. Donc là, quand on traverse ces moments-là, il faut faire extrêmement attention à ce que nous serons amenés à dire ou à faire. Eh bien donc, quand tu continues, tu vas voir que Job avait été perturbé par l'arrivée de ses amis. C'est eux qui l'ont poussé à bout. Et à un moment donné, il a commencé par dire certaines choses. Parce qu'eux, ils voulaient qu'il confesse. Oui, moi, Job, je confesse que j'ai péché. C'est pour cela que cette situation survient dans ma vie. Cette mentalité, elle persiste. Et elle est manifeste, elle est présente même parmi les chrétiens aujourd'hui. Même des gens qui sont remplis du Saint-Esprit, qui sont dirigés par le Saint-Esprit. Dès qu'un frère, dès qu'une soeur traverse une situation, leur premier réflexe, quand un frère est malade, quand une soeur est malade, quand on veut prier, on lui demande d'abord de confesser ses péchés. Et ça dit indirectement, on lui dit, tu es malade, c'est parce que tu as péché. Et tu traverses cette situation, c'est parce que tu as péché. Et la personne qui dit ça ne vit pas ce que vit ce frère. Ne vit pas ce que vit cette soeur là. Donc, là, on pousse la personne. Mais j'ai fait quoi? Non. Il faut confesser. Je vais confesser quoi? Frère, il faut juste confesser. Comme si Dieu n'est pas intelligent. Et que ça, c'est ça.
Et pourquoi
souvent,
c'est comme ça? L'autre loi.
C'est l'attitude des juifs orthodoxes modernes parmi le mouvement pentecôtiste, mouvement de sainteté. Quand tu prends le groupe des chrétiens, quelle que soit leur obédience, très souvent, quand quelqu'un souffre, notre premier réflexe, c'est de dire,
il a péché.
Il a péché.
Pourquoi c'est comme ça?
Oui, mais parce que sans l'avouer, nous sommes animés de propre justice. Okay. Nous sommes mieux que lui. Si moi je ne suis pas tombé malade, c'est parce que je suis plus spirituel que lui. Si cette situation ne m'est pas arrivée, c'est parce que je jeûne plus souvent que lui. S'il n'a pas cette déconvenue là, c'est parce que moi-même là, je fais des veillées de prière, je chasse les démons aux quatre coins de la terre. Quand on a cette attitude là, ça veut dire qu'on n'a pas encore connu ce Dieu là. D'accord. Donc, comme tu as parlé de Job, maintenant ce que je veux dire, oui, l'incrédulité, les murmures, l'apitoiement sur soi et même la rébellion au temps de la détresse n'attire pas la faveur de Dieu sur notre vie. Ça là, il faut pas le perdre de vue. Au contraire, ça va attirer le jugement de Dieu.
Ok.
Qu'est-ce qu'on doit faire au temps de la détresse?
Il y a l'incrédulité, la rébellion.
Oui, la rébellion, l'incrédulité, les murmures, l'apitoiement sur soi, la rébellion. Il y a des moments où on dit des choses très amères contre Dieu. Il y a des gens qui jettent la Bible. Il y a tellement de choses.
Je me fâche.
Oui, on se fâche contre Dieu et on lui donne quoi?
Un délai temps.
Un ultimatum pour lui dire, bon, je te donne de tel temps à tel temps. Si tu n'interviens pas, je vais retourner dans le monde. Si tu retournes dans le monde, Dieu là, il demeure Dieu. C'est toi que le diable va accueillir. Et va veiller à ce que tu ne retournes plus vers Christ. Et quand tu vas atterrir dans les tréfonds de l'abîme, c'est en ce moment que tu vas voir que tu étais fou et tu étais folle dans ta décision. Tu es un être humain. Nous sommes des êtres humains. Nous ne maîtrisons pas tout. Vaut mieux demeurer en Christ, traverser cette situation et continuer à avoir foi en lui qu'il interviendra à ma faveur au temps marqué. D'accord? Qu'est-ce qu'il faut faire?
D'accord, vas-y.
Au temps de la détresse. Oui. Dans Psaume 50, hein, beaucoup connaissent ce verset. Psaume 50, verset 15, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai, tu me glorifieras. Nous connaissons ce verset, nous citons ça souvent. Mais nous oublions que le verset 15 est précédé du verset 14, qui dit, offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce, pas des murmures.
Ok.
Des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Frères et sœurs, aujourd'hui là, il est très facile pour quelqu'un sous le coup de l'émotion d'ouvrir la bouche, de s'engager. Oh Seigneur, je vais faire ça. Seigneur, je vais faire ça. Et là où tu l'as dit, tu l'oublies là. Et puis c'est fini. Oh, lui, il te prend au mot. Et maintenant, dans Ecclésiaste, on va te dire, quand tu vas dans la maison de Dieu, il faut faire attention à ce que tu dis. Tu as fait des vœux, tu n'as pas honoré tes vœux. Maintenant, il ne va pas intervenir en ta faveur. Parce que le verset dit, quand tu auras fini d'offrir pour sacrifice à Dieu des actions de grâce, et quand tu auras fini d'accomplir tes vœux envers le Très-Haut, maintenant il dit, en ce moment, invoque-moi. Vous connaissez aussi Jérémie 33, verset 3. Les gens donnent à ce verset beaucoup de noms. Certains disent que c'est le
téléphone de Dieu. Téléphone de Dieu.
Voilà.
33, verset 3.
Voilà. Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Voilà, ici, il parle de révélation. C'est-à-dire que quand tu traverses une situation que tu ne maîtrises pas, invoque-le. Dis-le-lui. Parle-lui. Attends-toi à ce qu'il réponde. Il va répondre. Maintenant, quand il va répondre, parfois, quand il t'explique ce qui arrive, souvent, nous sommes étonnés. Parce qu'il a toujours dit, lui-là, sa pensée-là est différente de notre pensée. Et nos voix-là, c'est différent de ses voix. Lui, c'est lui qui maîtrise les situations. Maintenant, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire au temps de la détresse? D'accord? On a parlé d'apitoiement sur soi. Proverbe 24 va dire, si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. D'autres versets vont dire, si tu perds courage au jour de la détresse, ta force est mince. Si tu as perdu courage dans la calamité, ta force est diminuée. Donc là, tout ce que ce verset essaie de nous dire, c'est que au jour de la détresse, il faut s'accrocher à Dieu. D'accord? Et là, je vais prendre maintenant un récit condensé de l'histoire des enfants d'Israël. Et vous allez voir des choses qui, en les lisant, vont étonner, surtout pour nous qui nous sommes approchés de Dieu par le biais du sacrifice de Christ à la croix. Ésaïe 63, verset 9 dit, « Dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours. » Ça, c'est la fidélité de Dieu. « Dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours, et l'ange qui est devant sa face les a sauvés. » Il les a lui-même rachetés dans son amour et sa miséricorde. Et constamment, il les a soutenus et portés aux jours anciens. Ça, c'est ce qu'on peut donner comme témoignage sur la fidélité de Dieu. Mais on doit pouvoir se dire, écoutez, si quelqu'un bénéficie de la faveur de Dieu de cette façon, cette personne doit être fidèle à Dieu. Mais ils ont été rebelles. Malgré tout ce qu'on vient de lire là. Ils ont été rebelles, ils ont attristé son Saint-Esprit. Tu vois? Quand tu lis la Bible et tu ne laisses pas l'Esprit de Dieu te diriger, tu vas croire que dans le désert, le Saint-Esprit n'était pas là. Ils ont attristé son Saint-Esprit et il est devenu leur ennemi. Et il a combattu contre eux. Tu vois, quand on dit Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement, ce que Dieu a fait hier, là, il fait la même chose aujourd'hui. Si en tant qu'enfant de Dieu, dans le temps de la détresse, tu te rebelles contre lui, Dieu maintenant va se montrer comme son ennemi. Il va te confronter. Parce que lui, comme il est souverain, il ne va jamais s'humilier devant toi. C'est toi, l'être humain là, qui va s'humilier devant lui. Tu ne peux pas forcer Dieu à te faire plaisir. Non, tu dois obéir à ce qu'il a dit. Donc là, quand il dit, il est devenu leur ennemi, il a combattu contre eux. C'est en ce moment que Dieu, tu passes par ici, te bloque la voie, et tu passes par ici, te bloque. Quand il fait ça là, il te dit, il y a quelque chose que tu n'as pas encore réglé. Tu ne t'es pas encore mis dans la posture d'un racheté. Tu ne t'es pas encore mis dans la posture d'une créature. Et jusque-là, tu n'as pas confessé que je suis le Créateur, le Tout-Puissant. Tu dois t'affaisser devant moi et confesser que je gère la situation. Quand tu refuses de plier le genou là, ça va continuer. Dans certaines situations, c'est juste, Seigneur, pardon. C'est seulement ce verbe là que tu confesses. Et puis c'est fini. C'est juste pour dire, Seigneur, ok, je suis d'accord. Je vais aller me réconcilier. Seigneur, je suis d'accord. Je laisse tomber cette situation. C'est tout. C'est pas grand chose. C'est pas un démon en ce moment. C'est le moi, c'est l'orgueil là qui fait que nous refusons de nous mettre dans la posture appropriée. Verset 11. Alors son peuple se souvint des temps anciens, des anciens jours de Moïse, où est celui qui les fit monter de la mer avec le berger de son troupeau, où est celui qui mettait au milieu de son Esprit Saint. Tu as vu? Déjà dans le désert, l'Esprit était là, à l'œuvre, avec eux. Comme la bête qui descend dans la vallée, l'Esprit de l'Éternel les a menés au repos, c'est ainsi que tu as conduit ton peuple pour te faire un nom glorieux. Donc le Saint-Esprit était à l'œuvre. Mais certains n'ont pas accepté. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu a été leur problème. Quand Dieu dit, ne faites pas ça, chaque fois que Moïse vient dire, Dieu, on est fatigué. D'accord? Ceux qui se sont livrés à l'idolâtrie, là, ils l'ont fait pourquoi? Parce que Dieu a dit de ne pas commettre l'idolâtrie. Et ils l'ont fait. Ceux qui sont partis coucher avec les filles de Madian là, pourquoi ils l'ont fait? Parce que Dieu a dit, ça là, c'est interdit. Donc vous allez voir que la chair, notre chair là, elle veut faire ce qui est contraire à la parole de Dieu. Et donc là, quand vous lisez 1 Corinthiens 10, du verset 7 jusqu'au verset 11, vous allez voir la panoplie de comportements que ces gens avaient eu. Ils sont devenus idolâtres, ils se sont livrés à l'impudicité, ils ont tenté le Seigneur, ils ont murmuré contre le Seigneur. Et ça a attiré le jugement de Dieu. Et l'apôtre Paul de conclut dans le verset 11, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Tu vois donc, traverser un temps de détresse n'est pas chose étrange en soi. Mais qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps de détresse? Là, tout à l'heure, je vous ai dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Invoque-le. D'accord? Parle-lui. Mais attention à son intervention. N'essaie pas d'imaginer la sortie, l'issue de choses. Non, c'est lui qui gère. Il saura intervenir. Mais là, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? L'apitoiement sur soi, la rébellion, les murmures, plein de choses négatives qu'on veut faire, comme si Dieu est devenu, entre-temps, notre copain, on peut lui parler n'importe comment. Non, il demeure Dieu. Donc là, quand nous aurons fini de faire ça, alors nous comprendrons, lorsque la délivrance de Dieu s'opère, on va s'arrêter et comprendre. Maintenant je comprends. Et là, ce que tu ne sais peut-être pas, c'est qu'entre-temps tu as grandi spirituellement. Quand la détresse de Joseph a pris fin, la grande leçon de sa vie, c'est qu'il a compris que, en fait, ce ne sont pas ses frères qui l'ont amené en Égypte, c'est Dieu qui l'a amené en Égypte. C'est pour cela que l'Écriture dit qu'on l'a mis dans la prison là. Il était là jusqu'à ce que la parole de Dieu ne l'éprouve. Frères et sœurs, il y a un point d'issue que Dieu connaît. Mais il y a une posture que tu dois avoir, que Dieu te demande. Si tu refuses, ça va durer. Jusqu'au jour où tu acceptes enfin, ok, on m'a offensé, je suis en colère, j'ai gardé rancune, et ma rancune est devenue une haine. Dieu, maintenant je comprends par ta parole que je dois pardonner, que je dois laisser tomber, que je dois accepter que comme Christ a dit, pardonne-leur, je dois aussi apprendre à pardonner. Si c'est ça ton problème, si c'est le pardon, dès que tu auras fini de régler ça, tu vas voir, tu n'auras même pas besoin que quelqu'un de puissamment ou un vient prier pour toi. La situation change automatiquement. Parce que ça, c'est l'effet de Dieu, la façon de l'Éternel d'agir en faveur de ceux qui se soumettent à lui et à sa parole.
Put the hand on your chest and declare this over your life. Look at your neighbor. Chikama got your voice.
Chikame
ga. Chopo.
Suivez bien l'émission Étude Cantique et nous sommes en train d'étudier la dernière chanson en évée dans cette série d'émissions consacrée au chant en évée. Bien-aimé, l'autre Laurent, les paroles en anglais disent ce que Dieu est et ce qu'il fait dans nos vies. C'est ce que j'ai cru comprendre, hein, ce que Dieu est et ce qu'il fait dans nos vies. Alors, que faut-il en penser?
Bon, là, oui, c'est vrai. Ce que l'auteur a dit, on peut dire que c'est un résumé de ce que le chrétien sait par connaissance et expérience spirituelle personnelle.
Ok.
Ça dit que ce que l'a déclaré là, en tant que chrétien réel, vrai, authentique, si nous prenons cette portion, nous pourrons dire par nous-mêmes, non pas qu'on veut faire plaisir à quelqu'un, dire pas, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai que notre Dieu change les choses. Oui, c'est vrai qu'il ferait le chemin. Pourquoi? Et pour cela, j'ai dit, le chrétien sait par connaissance spirituelle. Il le sait par expérience spirituelle, dans sa marche avec Dieu. Il a vu Dieu intervenir. D'accord? Et dans Daniel chapitre 2, verset 21, qu'est-ce que Daniel a déclaré? C'est lui qui change les temps et les circonstances. Comment est-ce qu'il le sait? Il a expérimenté. D'accord? Il a déclaré que ce Dieu-là, c'est comme ça il est. Il change les temps et les circonstances. C'est lui qui renverse et établit les rois. Donc ça là, c'est des paix qui sont à l'actif de Dieu. C'est lui qui donne la sagesse aux sages et l'intelligence à ceux qui ont, et la science à ceux qui ont l'intelligence. Dans Isaïe 43, verset 19, il dit: voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Quelle est cette chose? Je mettrai un chemin dans le désert. Il va frayer un chemin dans le désert. Naturellement, il n'y a pas de chemin réel dans le désert. D'accord?
là où vous passez là, le lendemain vous revenez, vous n'allez plus vous retrouver parce que avec le vent et tout le reste là, vous allez vous perdre. Voilà pourquoi justement dans le désert, l'Esprit de Dieu dirigeait le peuple. Normalement, s'ils avaient été fidèles, ils auraient traversé et entré sur la terre promise. Mais c'est leur rébellion et autres là qui a fait que, bon, ils ont dû faire assez de temps dans le désert, 40 ans dans le désert, tout ça là, jusqu'à ce que les rebelles ne soient décimés et que la nouvelle génération ne puisse entrer sur la terre promise avec, bien entendu, Josué, Caleb et sans oublier un cadavre, le cadavre de Joseph. D'accord ? Parce qu'il avait demandé que ses os soient transportés. Donc, souvent, nous oublions ça. Ils ont transporté les os de Joseph. Donc là il dit, je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Ça c'est l'effet de Dieu ça. Dans le désert il n'y a pas de fleuve. Mais il dit, lui il va mettre ça. D'accord? Et quand la situation est sans issue, c'est en ce moment alors que Dieu intervient. Et quand il pose là, qu'il doit poser, toi même ta conclusion c'est que ça là c'est Dieu. Et parfois ça amène même les vindicatifs. Les gens qui ont des raisons de ne pas croire et qui disent des choses, sont négatifs, pensent qu'ils sont plus intelligents que le Créateur. Quand des faits de Dieu se manifestent, si ces gens avalent leur orgueil, ils seront amenés à dire, ça là, c'est Dieu. Donc, là, de par la question que tu as posée, oui, l'auteur est en train de nous dire clairement ici que ce Dieu que nous servons a à son actif des actes que nul autre ne saura poser. D'accord? Il va frayer un chemin pour toi. Ça veut dire, il y aura une particularité dans la délivrance qu'il va t'accorder. Il n'échoue jamais. On ne peut dire nulle part dans les Écritures, ah Dieu, à un moment donné là, il était à bout de force et il a dû laisser tomber. Non, il n'échoue jamais. D'accord? Et il œuvre en ta faveur. N'oubliez pas, à l'entame de l'émission, nous avons dit que nous comprenons qu'en tant qu'enfants de Dieu, Dieu nous prend en charge. Sous l'ancienne alliance, les enfants d'Israël vont dire, l'Éternel nous prend en charge, comme nous l'avons lu dans le passage d'Ésaïe. Mais sous la nouvelle alliance, Jésus, c'est pour cela qu'il a donné sa vie. Il nous prend en charge. Et pour pouvoir entériner cela, il a permis que nous recevions l'esprit d'adoption. Nous avons le sceau de Dieu sur nos vies. Et ça, dans la plupart des prédications aujourd'hui, on ne met plus l'accent sur ça, la réalité, l'identité d'un enfant de Dieu. Qu'est-ce qu'il est? On n'en parle pas. On veut juste que les gens, voilà, on parle de ce qui est extérieur. Dites-nous, qu'est-ce que Jésus a fait de nous? C'est ça le message de l'évangile. Quand il est venu, quand il est mort là, qu'est-ce que ça a donné? C'est pas les histoires de vélo, de camion. Il nous a transposé de l'ancienne création. Parce que Adam, il a légué le monde là à Satan. Et c'est l'ancienne création ça. Maintenant quand Jésus est venu, la nouvelle création est avec Jésus. Donc, il nous prend de ce monde de ténèbres où nous ne pouvions rien faire par nous-mêmes. Il nous a pris et il enlève nos chaînes et il nous transporte dans son royaume. Et dans le royaume de Christ, dans le royaume de Dieu, ce qu'on rencontre là-bas, c'est des nouvelles créatures. Voilà pourquoi, dès que tu cesses d'être une nouvelle créature, tu ne peux plus rester dans le royaume. De la même façon que Lucifer a cessé d'être dans le royaume de Dieu, quand l'iniquité a été trouvée en lui. Vous comprenez? Donc quand on parle de sainteté là, c'est ça, c'est la vie normale d'un enfant de Dieu, la sainteté, la vie normale d'un fils de Dieu, d'une fille de Dieu. Si tu veux prendre les choses qui appartiennent à l'ancienne création et la mettre dans ta vie, ces choses là vont te disqualifier de demeurer dans le royaume de Christ. Donc Christ nous prend en charge, si vous comprenez ça. Oh, vous allez voir que votre vie chrétienne, votre attitude même va changer parce que vous avez enfin compris. L'apôtre Paul a compris, il a dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes là, appartenant à l'ancienne création, sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Qui prêche encore sur ces choses? Qui prêche encore contre la mondanité? N'aimez point le monde. Qui prêche encore ça aujourd'hui? Personne. Parce que le monde s'est invité dans l'église et l'église l'a accueilli à bras ouverts. Personne ne peut plus prêcher maintenant. Rares sont ceux qui prêchent contre le monde. Parce que quand tu le fais le dimanche prochain, il y aura des bancs vides. Et on a peur. Frère, aussi longtemps que nous avons le souffle de Dieu, nous prêcherons la sainteté. Nous vous dirons ce que la Bible dit, n'en déplaise à qui que ce soit. C'est notre mission ça. De dire aux gens, Jésus-Christ a la capacité de prendre un pécheur, quel que soit son palmarès dans le péché, il a la capacité de prendre cette personne, de la transformer pour en faire un saint. Chose impossible au diable, chose impossible à l'être humain. Seul Jésus fait ça là. Nous allons continuer à vous le dire. On va marteler ça. Enfin, vous allez comprendre qu'il y a certaines personnes qui vous trompent, qui vous parle des choses non essentielles, des choses qui ne vous permettront pas d'aller au ciel. Revenez aux saintes écritures. Ce que ce monsieur est en train de dire ici, là, là, vous ne comprenez pas sa déclaration que c'est une réalité pour un enfant de Dieu. Si vous êtes véritablement enfant de Dieu, ce qu'il a dit là, ces phrases qu'il a faites là, vous pouvez vous identifier à cette oui, notre Dieu là, c'est ce qu'il fait.
Très bien. Comment faut-il comprendre ces paroles-là? C'est déjà dit ou il y a encore d'autres choses à apporter? Est-ce des paroles prophétiques?
Prophétiques, hein, attention.
Oui, bon, c'est une question que je pose.
D'accord. Très bien. C'est des paroles d'exhortation.
D'accord.
Elles seront prophétiques si elles sont données par l'Esprit de Dieu
voilà.
Et utilisées maintenant par l'auteur. Pourquoi est-ce que je dis ça? Okay. Vous souvenez de David, non? Les psaumes de David.
Ouais.
Venait d'où? Ça venait de l'Esprit de Dieu. Oui. N'oubliez pas, David était un petit berger.
Oui.
Et qui a reçu l'Esprit de Dieu.
Oui.
Et l'Esprit de Dieu est un esprit d'adoration.
Mm-hmm.
C'est l'Esprit de Dieu qui l'a instruit à savoir comment on parle à ce Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui l'a amené à comprendre comment on peut communier avec Dieu. Je n'ai pas le temps pour vous expliquer dans Psaume 139, dans d'autres parties où David faisait des expériences personnelles avec Dieu. Je m'endors, je me réveille, il est toujours avec moi. Il est devant moi, il est derrière moi, il est au-dessus de moi. Tellement, pourquoi? Parce que il a appris par le Saint-Esprit. Vers la fin de sa vie, là si vous oubliez tout ce que j'ai dit aujourd'hui, dans 2 Samuel chapitre 23, à partir du verset 1, il dit ceci. Voici les dernières paroles de David. Parole de David, fils d'Isaïe. Parole de l'homme haut placé. De loin du Dieu de Jacob. Du chant agréable d'Israël. Chant agréable d'Israël. Qu'est-ce qui le rend chant agréable d'Israël?
C'est d'accord? Lui qui dit ça, d'accord.
L'Esprit de l'Éternel parle par moi.
Oui.
Et sa parole est sur ma langue.
Mm-hmm.
Donc si le chant du 21e siècle est dans la même gamme que ce que nous sommes en train de lire maintenant là, les paroles qui sortent de sa bouche, de sa chanson, seront prophétiques. Parce que c'est en fait ce à quoi Dieu avait fait allusion en parlant du baptême du Saint-Esprit. Vos fils et vos filles prophétiseront. Ça veut dire, les paroles qui sortiront de leur bouche ne viendront pas d'eux, mais ça viendra de moi comme les prophètes d'antan. C'est-à-dire, ils sont les porte-paroles de Dieu. Ça veut dire, si je suis rempli de l'Esprit et je marche selon le rythme de Dieu, quand je chante, ce qui sort de moi vient de l'Esprit de Dieu et ce n'est pas une parole ordinaire. C'est en ce moment, ça peut être des paroles prophétiques. Et l'Esprit peut s'en servir pour toucher la vie de quelqu'un, pour transformer la vie de quelqu'un, parce que ce qui vient de l'Esprit donne vie. C'est pour cela que Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Donc, là, à nous maintenant de voir si c'est une parole prophétique ou non. Pour moi, c'est des paroles d'exhortation. À moins que ce soit réellement inspiré de Dieu, ça va avoir son effet. Si ce n'est pas inspiré de Dieu, ce sera juste des paroles d'exhortation que quelqu'un peut comprendre. Parce que quand ça vient de Dieu, ça touche notre esprit.
Ouais.
Quand ça vient de l'homme, ça touche notre mental, notre intellect.
Merci l'autre Laurent. Mao Anna marque la fin de la série de chants enlevés. Bien-aimés, vous nous avez suivis, on a été ravis, on était très contents. On espère que par ces 4 séries d'émissions consacrées au chant élevé, cela vous a fait du bien. Alors nous vous disons au revoir et à dimanche prochain pour une autre chanson à étudier. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Au revoir et à la semaine prochaine. On vous laisse avec la chanson Mao Anna.
Now be Mau Anna.
Mau Anna.
Put a hand on your chest and declare it upon your life.
Unless you
are.
Unless
you are.
Look
at your neighbor. Chikamaga chopo.
Chikamaga. Chopo.
Nele yes to bumbo.
Yes, to
Mama, I'm not gonna
serve,
that's the God we serve.